Chapitre 1. Les pièges du bonheur. Comment nous nous sabotons au travail. Par Annie McKee. Pourquoi sommes-nous capables de façonner nos carrières tout en étant malheureux dans ce que nous faisons? Voici comment y remédier. L'idée en bref. Le casse-tête. Pourquoi un si grand nombre d'entre nous, capables de façonner leur carrière, sont-ils si malheureux au travail? Et que pouvons-nous faire pour y remédier? Les pièges? Nous adoptons souvent des états d'esprit destructeurs et des façons de travailler qui nous rendent insatisfaits et finalement moins performants. Certains de ces pièges du bonheur les plus communs, ambition, gagner à n'importe quel prix, faire ce qui est attendu plutôt que ce que nous voulons, surmenage, semble productif en surface, mais poussés à l'extrême, ils sont nocifs. Le chemin à suivre, pour trouver le bonheur au travail, il faut aiguiser votre intelligence émotionnelle afin de comprendre dans quel piège vous êtes tombé. Puis, vous pouvez développer trois éléments connus pour augmenter la satisfaction professionnelle. Un travail qui a du sens, un espoir constant, et des amitiés au travail. La vie est trop courte pour qu'on soit malheureux au travail. Pourtant, un grand nombre de professionnels libres de façonner leur carrière comme ils l'entendent sont démotivés, tristes et insatisfaits. Prenons l'exemple de Sharon, vice-présidente d'une multinationale du secteur énergétique et qui fait partie des clients qui me consultent. Elle est intelligente, travailleuse et a gravi tous les échelons en respectant les règles. Elle gagne énormément d'argent, est mariée à un homme qu'elle aime et elle est dévouée à ses enfants. Elle avait tout ce qu'elle pensait désirer, mais elle n'était pas heureuse. L'ambiance était tendue à la maison et le travail ne lui procurait plus de plaisir. Elle était fatiguée des intrigues de bureau et se montrait cynique face aux changements incessants qui devaient prétendument régler ce qui n'allait pas au sein de l'entreprise, trimestre après trimestre. Elle n'appréciait pas les heures interminables que l'on exigeait qu'elle fournisse. La promotion et le bonus annoncés n'étaient pas aussi attrayants qu'auparavant, mais elle travaillait tout de même aussi dur qu'à son habitude. Faire de son mieux était dans sa nature. Sharon rendait les autres responsables de son désenchantement. Elle croyait que le comité exécutif était déconnecté des affaires quotidiennes. Elle s'est plainte à des amis et à des collègues des mauvaises décisions de management, de la stratégie de l'entreprise et de ce qu'elle percevait comme un manque de vision de la part de leaders expérimentés. Tous les membres de son équipe semblaient se laisser aller. Après avoir coaché Sharon durant plusieurs mois, j'ai fini par l'apprécier, mais je trouvais moi aussi ses plaintes pénibles. J'ose à peine imaginer ce que ses collègues en pensaient. Lorsque nous avons enfin dépassé le stade où elle m'expliquait que tout le monde, sauf elle, était responsable de son insatisfaction, elle m'a affirmé « Je sais que je pourrais probablement rendre les choses meilleures. Je suis seulement trop occupée. En plus, peu importe que je sois heureuse ou pas, ce qui importe, c'est que j'atteigne mes objectifs. » Après y avoir plus réfléchi, Sharon a admis que son stress et sa tristesse affectaient ses relations professionnelles, sa famille et sa santé. Elle a même remarqué qu'elle avait peu à peu commencé à trahir son éthique. Ce dont elle ne se rendait pas compte, c'était du lien entre sa détresse croissante et la baisse de sa capacité à faire son travail de façon efficace. Sharon n'est pas un cas isolé. Des années durant, nous avons entendu parler de niveaux d'engagement des salariés tristement bas. De nombreuses études montrent que quasiment les deux tiers des salariés aux États-Unis s'ennuient, se sentent détachés ou blasés et prêts à saboter des plans, des projets et à décrédibiliser d'autres personnes. Cela n'a aucun sens pour moi. Pourquoi sommes-nous si nombreux à accepter un travail insatisfaisant, de haut niveau de stress, un burn-out imminent et une tristesse chronique? Pourquoi ne ripostons-nous pas? Un malaise contemporain. De multiples facteurs expliquent ce malaise contemporain. L'Association américaine de psychologie a découvert, début 2017, que les Américains se disaient plus stressés que jamais à cause des politiques mises en place, de la rapidité des changements et de l'incertitude régnant dans le monde. Mais ce ne sont pas toujours des forces extérieures qui nous poussent en dehors des frontières du bonheur. Parfois, nous en sommes seuls responsables. Au cours des 30 années que j'ai passées à conseiller des leaders de grandes entreprises, des gouvernements et des ONG autour du globe, j'ai découvert que bien trop d'entre nous tombent dans des pièges du bonheur récurrents, des états d'esprit destructifs et des méthodes de travail qui nous bloquent, nous rendent malheureux et qui, finalement, nous éloignent de la réussite. Trois des pièges du bonheur les plus communs, l'ambition, faire ce que l'on attend de nous et travailler trop dur, semblent a priori productifs, mais sont nocifs lorsqu'ils sont poussés à l'extrême. Le piège de l'ambition. L'envie d'atteindre des objectifs et de faire avancer notre carrière nous pousse à être à notre meilleur niveau et à faire de notre mieux. Mais lorsque l'ambition se double d'une hyper-compétitivité et d'une détermination sans faille pour obtenir la victoire, nous nous attirons des ennuis. Nous ne discernons plus l'impact qu'ont nos actions sur nous-mêmes et sur les autres. Les relations s'abîment et la collaboration se dégrade. Nous commençons à viser des objectifs seulement pour les atteindre. Le travail en vient alors à perdre de son sens. C'est exactement ce qui est arrivé à Sharon. Au cours de sa vie, ses parents, ses enseignants et ses coachs l'ont encouragée à faire de son mieux et elle a accompli beaucoup de choses. Elle a eu de bonnes notes, les meilleurs postes dans des équipes sportives et des récompenses universitaires. Lorsqu'elle a commencé à travailler, son ambition impressionnait ses supérieurs. Elle leur fournissait ce qu'ils attendaient dans les temps et le travail était bien fait. Ses pairs n'étaient néanmoins pas aussi séduits et certains ont commencé à l'éviter lorsqu'ils ont compris que Sharon voulait toujours être numéro un. Pour elle, cela voulait dire que tous les autres devaient être numéro deux. Les objectifs de l'équipe n'étaient pas une priorité, à moins qu'ils ne servent sa cause, et elle a commencé à avoir la réputation d'une personne prête à sacrifier les autres pour son propre intérêt. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais à être ambitieux, bien entendu. Parfois, cela mène les gens à parfaire leurs compétences. Après tout, une collaboration efficace est un prérequis pour une réussite à long terme dans les organisations complexes. Mais l'ambition sans retenue de Sharon était axée uniquement sur ses propres objectifs et ses pairs n'ont pas tardé à arrêter de lui faire confiance. Ils ont aussi arrêté de l'aider. Les défis que Sharon rencontrait sur son lieu de travail ont atteint un point critique alors qu'elle gérait un projet de grande envergure, faisant office d'intermédiaire entre son département et un important client interne. La stratégie de l'entreprise a changé. Les objectifs du projet aussi et les standards du client ont été revus à la hausse, même si les financements restaient stables. Sharon a, de manière répétée, considéré les demandes du client comme étant des exigences déraisonnables et a répondu comme elle l'avait souvent fait, en tournant la situation en compétition gagnant-perdant. Elle a commencé à lésiner sur les moyens, à exiger que son département reçoive des montants excessifs d'argent pour le travail qu'il faisait, et a même proféré un ou deux mensonges pour arriver à ses fins. Le patron de Sharon, qui l'avait protégée pendant des années, s'est finalement rendu à l'évidence. Elle était devenue un frein. Il l'a retirée du projet et l'a mise sur la touche. Sa carrière s'est trouvée au point mort. Être contrainte de sortir de la voie rapide a été un signal d'alarme et Sharon s'est rendu compte qu'elle était seule et profondément malheureuse au travail, depuis très longtemps. Son ambition s'était transformée en piège, à défaut de devenir un atout. Son côté impitoyable était une attitude qu'elle avait développée plutôt qu'un de ses traits de caractère. Sa réussite précoce avait renforcé un comportement très individualiste qui avait fini par la faire dérailler à la fois professionnellement et personnellement.